Très content d'être avec vous ce matin. J'ai demandé à mon épouse de venir me rejoindre, ma charmante compagne de jeunesse. On s'est connus, on avait 16 ans. Ouais. Ça fait 52 ans qu'on est un couple aujourd'hui. Ben, pas aujourd'hui, là, mais en tout cas cette année, disons, mois d'avril. Et puis, finalement, ce matin, ce qu'on veut faire, c'est dire un gros merci à l'Église de Edmundston. Parce qu'on a une longue histoire ensemble. Et puis, vous avez été nos partenaires en mission depuis le début, quand on est parti, jusqu'à ce jour, et vous continuez encore. Alors, on a voulu commencer la réunion. J'ai demandé à Mme Lucide de mettre notre première diapo. Nos diapos vont être un petit peu déphasés, parce que des fois, quand on prend d'un ordi à l'autre, il y a des surprises qui arrivent. Mais vous allez quand même reconnaître tout ce beau monde sur cette photo-là. Ça, c'est quand on avait dédié le cabanon qui porte mon nom. Ça, c'était en 2005, hein? Et puis, mais ma première rencontre avec l'Église de Edmundston, ça a été bien avant ça. Nous, on a accepté le Seigneur, Brigitte et moi, dans une... C'était très dramatique, notre conversion. Moi, je sortais d'une vie de drogue et puis toutes sortes de les troubles qui accompagnent tout ça. Avec Brigitte, ma blonde dans le temps, elle était enceinte d'un deuxième enfant. Et puis moi, je lui avais dit, ben là, moi, je ne veux plus être avec toi... je veux retourner dans ma vie de débauche, etc. On avait une petite terre à bois dans ce temps-là. Garde l'argent, garde tout, puis moi, je m'en vais. Puis c'est là que le Seigneur est intervenu dans notre vie. Heureusement, notre vie aurait été un désastre sinon. Et puis, le Seigneur nous a appelés d'une vie de ténèbres à son admirable lumière. Et il nous a appelés à être missionnaires aussi. Et puis ça, c'était en 78. À l'été 79, comme par miracle, on s'est joint à un groupe qui avait une mission, mais mettons Québec, Nouveau-Brunswick, c'était un groupe d'Ontario qui voulait évangéliser les francophones. Et puis on commençait un camp qui s'appelait Mission Gaspésie, c'était à Escouminac, plusieurs d'entre vous, vous allez vous rappeler. Et puis je peux dire qu'il y avait toute une onction dans ce camp-là, parce que tous ceux... Je pourrais dire presque totalement, ceux qui ont participé à cette formation intense de disciples se sont retrouvés soit missionnaires ou pasteurs, évangélistes, activement dans le ministère, dans l'œuvre. Donc, il a vraiment été quelque chose d'important. Et ça, c'était dans le mois de juillet, à peu près 1979. Puis Brigitte, elle venait de donner naissance à notre deuxième fille. On avait un bébé qui était malade. Et puis on était avec toute cette gang de jeunes-là, puis on était allés évangéliser à Escouminac. Et puis notre dernière fin de semaine, on l'a passée à Edmundston. Et puis c'était la fin de semaine, on était venus faire du porte-à-porte, évangéliser dans les parcs. Et le soir, il y avait une réunion spéciale ici à l'église. L'église était toute neuve ici. Et puis c'était l'installation du pasteur Whittaker, qui a été nommé ici, parce qu'il y avait eu une campagne de réveil juste avant, avec des guérisons glorieuses et tout ça. Et puis, c'était un pasteur, je pense, de Grand Sault, qui était le pasteur qui avait comme débuté un petit peu tout ça. Puis là, le pasteur Whittaker était venu. Donc, c'est ma première rencontre avec l'église de Edmundston. C'était 45 ans quand même. Hein? Et puis, depuis ce temps-là, ben, on est des amis et puis on est des partenaires. Et puis, vous avez tout le temps été très généreux envers nous quand on est parti en mission. Nous, c'était important quand on est parti en mission. Pour moi, en tout cas, c'était très important. Moi, je voulais partir en mission comme dans Acte 13. Je n'ai pas fait de lever de fond. On est parti, on a dit, si Dieu nous appelle, Dieu va pourvoir. Et puis, on est parti par la foi avec 4 jeunes enfants. On a vendu notre maison, on a tout laissé. On est parti comme des aveugles, innocents, ignorant, très ignorant et pas mal fou. Mais Dieu dit, bon, ben j'aime ça, ce monde-là, je vais faire quelque chose avec eux autres. Ils sont assez fous pour me faire confiance. Donc, on est parti comme ça. Et puis, vous avez tout le temps été là avec nous et puis vous avez supporté jusqu'à aujourd'hui. Après 30 ans de mission en Asie, On est revenu à Saint-Hyacinthe, notre église où j'étais pasteur avant d'aller en mission. On est revenu à Saint-Hyacinthe, je suis encore pasteur à l'église, je fais partie de l'équipe pastorale. Mon pasteur principal, en passant, vous salue tous, vous le connaissez tous, pasteur Guy Gosselin et son épouse Lise. Je pense que ça, il vous dit bonjour. Mon pasteur principal était mon leader de jeunesse quand moi j'étais son pasteur. Mais maintenant, il est mon pasteur. Vous voyez comment Dieu fait les choses bien. Fait que ce matin, avant d'aller dans la présentation de ce matin, je voulais prendre le temps de vous dire un gros, gros merci avec Brigitte. Et puis, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, il te passe des petites idées par terre, ça va, OK. Et puis, je la surprends tout le temps comme ça, je ne l'avertis pas, puis là, je l'amène, et puis là, je lui demande de dire des choses. Mais c'est ça. Ce matin, on voudrait souligner symboliquement notre merci en remettant deux cadeaux à deux personnes de votre assemblée. Ça vient de la Chine. Ça fait longtemps qu'on les a, mais à cause de la COVID, puis tout ça, on n'avait pas pu revenir. Fait qu'on voudrait offrir deux cadeaux de la Chine à deux membres, à des membres de votre assemblée pour vos sacrifices et toutes les canettes qui ont été, je ne sais pas si vous les avez comptées à peu près le nombre de canettes que vous avez dû ramasser à travers les années, les canettes, les bouteilles, mais ça fait une grosse différence. Puis encore aujourd'hui, je veux vous remercier parce que quand on est revenu à Saint-Hyacinthe, on ne savait pas trop dans quelle direction on allait, mais finalement on s'est joint à l'équipe pastorale. Et ça me donne une plateforme pour continuer la mission à partir d'ici. J'ai des contacts avec des missionnaires à travers le monde, je fais des Zooms, je fais des entrevues, tout ça, puis on soutient beaucoup de missionnaires. Je fais des capsules vidéo missionnaires à tous les mois à notre église, on a triplé notre budget de mission. C'était un peu mort quand j'étais revenu en 2020, on est revenu en 2020 au mois d'août. Et c'était la COVID, fait que tout est pas mal mort, là, les programmes missionnaires, tout ça. Fait que quand j'ai commencé les vidéos de la mission, puis en même temps des vrais missionnaires avec leur histoire et tous les pays là où ils travaillent, je travaille très, très fort pour rendre ça intéressant, faire voyager les gens, rendre ça vivant. Et puis, en tout cas, Dieu est vraiment béni. Donc, j'ai encore cette plateforme-là. Et votre Église, encore, m'ont surpris, encore une fois, en acceptant de continuer d'envoyer vos fonds missionnaires à travers nous à Saint-Hyacinthe pour qu'on puisse soutenir beaucoup de missionnaires. On soutient beaucoup de missionnaires dans beaucoup de continents et puis tout ça. Donc, encore une fois, un gros merci à votre Église. Vraiment, c'est beau. Donc, je voudrais inviter Roger et Pressé de venir, ce sont des grands amis. Et puis, Guilmont. Guilmont, est-ce que vous êtes ici? Venez, s'il vous plaît, mon frère. Venez vous faire embrasser ici en avant, là. Venez vous faire hugger, là. On a un petit cadeau. Vous savez, ces gens-là, là, ils veulent pas être ici en avant, là. C'est moi qui les ai forcés de venir. Et puis, je leur ai dit, écoutez, c'est symboliquement. On les remet à eux parce qu'ils ont beaucoup travaillé, mais je sais qu'il y en a d'autres parmi vous qui avaient beaucoup contribué et travaillé aussi. Donc, c'est symboliquement à l'Église qu'on remet nos petits cadeaux. On va descendre avec eux. Est-ce qu'il faudrait amener l'autre partie? Oui, oui, ça aussi. Ben oui. Vous pourrez décider si vous voulez changer les cadeaux, là. Ça, c'est une théière vraiment spéciale qui vient d'un coin de la Chine ou qui font de la poterie vraiment spéciale. C'est très beau. Ça, c'est du vrai thé authentique de la Chine. Vous voyez, c'est écrit en chinois sous le sac. Tiens, regarde ça ici. Et celui-là, c'est une belle théière. Elle est bien enveloppée parce qu'elle a beaucoup voyagé. Une très belle théière dans son enveloppe originale. C'est comme une belle poterie. Là. C'est de la grande qualité. En tout cas, je vous la remets. Et avec un gros merci. Et puis, celui-là ici, c'est en jade, je pense. Un set de thé, de petites théières. Il y a tout ça. Puis, il y a des petites coupes, des petites tasses pour ça. Fait que, jouissez de votre bon thé chinois. Et un gros merci.
Merci, René.
Merci beaucoup, mon frère. C'est une grande bénédiction pour nous. Merci. Et merci à toute l'Église. C'est moi qui ai le clicker, hein? Je me souviens pas où je l'ai mis. Attends un petit peu. Je pense que je l'ai mis dans mon veston ici. Excusez-moi. Ah, c'est ça, celui-là, oui. Je pense. Oui, c'est ça, ici. Est-ce que c'est moi qui fais ça? J'essaie de le sortir de dans ma poche. Où est-ce qu'elle est ma poche, ici? OK. Bon, on arrive. Ah, alléluia. Eh bien, merci beaucoup encore une fois. On est vraiment touchés par votre amour. Je vais faire des petites annonces rapidement. Ici, je voudrais que vous preniez note de ce qui est là, parce que si vous voulez savoir un peu ce qu'on fait, actuellement, je fais les capsules missionnaires. Vous pouvez les atteindre directement à partir de ce site-là ou parler avec notre sœur Pressée qui s'y connaît très bien. C'est sur la chaîne YouTube de notre église, le CCDM à Saint-Hyacinthe. Et puis, c'est tout catégorisé par section, puis il y a une section sur la mission. Fait que à tous les deuxièmes mardis du mois, on sort une nouvelle capsule missionnaire. Donc, on a ça. La deuxième chose que je veux vous montrer, un petit peu. Bon, mais ça, c'est comme un peu ça, là. Ça, c'est les listes de lecture ou les playlists que vous allez trouver sur la mission sur le site YouTube de l'Église de Saint-Hyacinthe. Ensuite, ici, bienvenue au musée Expo Bible. Ça, c'est quelque chose que je fais. On a commencé de faire des expositions. C'est comme des musées Expo Bible. On fait ça dans des endroits publics. On amène des documents, des Bibles anciennes, et on a même maintenant, en nouveauté, une copie de la presse authentique de Gutenberg, qui est fonctionnelle, et les gens peuvent venir imprimer une page de la Bible et retourner à la maison avec ça. C'est vraiment extraordinaire. On a fait l'exposition agricole l'année passée, on fait ça dans des salles, on vient d'en faire une à Grand Bay. Mais ça, c'est un outil offert à toutes les églises qui voudront. Et en fait, je vais en parler plus ce soir, parce que ce soir, je vous invite à une mini-expo Bible. On n'aura pas toutes les choses qu'on a, naturellement, on va juste avoir quelques objets, mais je vais parler ce soir sur est-ce qu'on peut se fier aux documents de la Bible. Ça va être très édifiant pour votre foi, je crois. Donc, ce soir, à 7h, c'est un rendez-vous. Donc, si vous allez sur ce site-là, vous voyez expo-bible.ca. J'ai fait un très, très beau site web qui explique beaucoup de choses. Qu'est-ce que la Bible, simplement, mais aussi des documents, des manuscrits, des découvertes archéologiques qui, justement, nous amènent à affermir notre foi sur la fiabilité de la Bible. Donc, ça, c'est un petit à côté, OK? Fait que prions ce matin pour que Dieu me dirige à vous encourager dans la foi. Merci Seigneur notre Dieu, merci pour cette belle Église, Seigneur, qui persévère dans la foi. Malgré vents et marées, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es au milieu d'eux, ton Saint-Esprit agit, Seigneur, et la gloire de Dieu, Seigneur, se révèle à chacun de nous quand on se tourne vers toi, vers ta parole. Ton Saint-Esprit est vivant au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, ce matin, dirige-moi pour encourager mes frères et mes sœurs dans la foi, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Eh bien. Je me prépare. OK. Bon, préparé et choisi, c'est le message que j'ai préparé pour vous un petit peu. Il va y avoir des témoignages dans tout ça un peu. Mais c'est parce que quand je pense à la mission, premièrement, je pense vous aussi, vous y pensez le plus grand des plus grands missionnaires, à part de Jésus, parce que c'est lui le plus grand missionnaire, c'est l'apôtre Paul. Puis, on vient de faire une étude de l'apôtre Paul, c'est ça qui m'a inspiré un petit peu pour ce matin. Avant de devenir missionnaire, on doit être préparé et on doit être choisi par Dieu. C'est évident dans la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, comme chacun de nous, avait un passé, on connaît dans les Écritures, qui n'était pas très beau, son passé, n'était pas très glorieux. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 12, il l'exprime très clairement. « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur. Je le remercie de m'avoir estimé digne de confiance en me prenant à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un agresseur honteux ou un homme violent, cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et je pense qu'on peut pas mal se reconnaître dans cette phrase-là. Auparavant, dans la phrase « auparavant », j'étais comme ça. J'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. On ne connaissait pas l'Évangile, on ne connaissait pas l'amour de Dieu. On avait des concepts de religion et tout ça. Puis il y en a qui, on a beaucoup dans la société aujourd'hui, ont rejeté même les concepts de religion. Donc, j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Le mot clé, je voudrais dire dans ça ici, c'est « je suis reconnaissant ou je remercie celui qui m'a fortifié ». Parce que dans ce mot-là, c'est le mot « endunamu » qui est de la même racine que le fameux verbe là, de Acte 1, 8, « la puissance qui viendra sur moi », la puissance « dunamis » qui est souvent utilisée pour exprimer une force surnaturelle, l'intervention divine, un peu le miraculeux là, qui vient faire ce que l'homme n'est pas capable de faire. Là. C'est ça, c'est cette force-là. Donc, endunamu, ça veut dire habilité. Ce qui n'est, moi, je ne suis pas capable, mais le Seigneur m'a habilité. Il m'a donné l'habilité. Il m'a donné il nous revêt de force. Il nous donne le pouvoir. Il nous rend forts en nous prenant à son service. Ça, là, tu ne peux pas faire quoi que ce soit sans passer par cette expérience-là. Ça, c'est pour ça que j'insiste. C'est vraiment le mot, si vous retenez la seule chose ce matin, c'est ça ici. Puis ça, c'est vrai pour les missionnaires, c'est vrai pour les pasteurs, puis c'est vrai pour tous les chrétiens. Alors, ça fait partie de notre expérience chrétienne. En me prenant à son service, en m'appointant ou en m'établissant dans son service ou dans le ministère. Bon, on sait que Paul était un homme, il dit, agresseur honteux. Ça veut dire que le mot qui veut dire qu'il inflige des propos insultants comme des actes honteux pour faire du mal, pour humilier, pour faire du mal, pour détruire la réputation. Il était grave, là, il était méchant. Hein? Alors, il y a beaucoup d'autres mots clés à voir dans son expérience. Dans ce texte-là ici, lorsqu'il a plu à Dieu de m'avoir mis à part, il y a des mots ici clés là, qu'on va parler, trois actions que Dieu a fait. Mise à part, dès le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils pour que je l'annonce. Donc, c'est vraiment important des actions que Dieu. Il m'a séparé, il m'a appelé, puis il m'a révélé son Fils. Donc, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et puis, il a révélé, ça veut dire, ça c'est le mot apocalypse, apocalypto, qui veut dire enlever le couvert. C'est quelque chose qui était inconnu, qui était caché, on ne savait rien de ça. Et c'est enlevé. Dieu révèle son Fils. Dieu révèle et enlève le couvert pour faire connaître le secret. Dieu veut faire plus que nous révéler Jésus. Juste comme en entendre parler et tout ça, mais il veut le révéler à nous pour transformer notre vie vraiment complètement. Il dit pour que je l'annonce parmi les païens. Ça me fait poser la question, est-ce que Dieu a un sens de l'humour, oui ou non? Parce que là, tu prends un homme violent, un homme blasphémateur, un homme qui cherchait à faire du mal, qui haïssait le mouvement de Jésus pour le détruire complètement dans son zèle extrême. Et puis c'est lui que Dieu arrête. Quand ça dit que Dieu m'a mis à part, c'est vraiment, il m'a arrêté. Dans son élan, dans son zèle de violence, dans son attaque contre l'Église du Seigneur, Dieu a dit, « OK, aujourd'hui, on t'arrête là. » Il s'est révélé à lui dans un mouvement vraiment extraordinaire, mais ce n'est pas tout, il s'est passé d'autres choses. Là, il ne comprenait pas tout. C'était dramatique, là. Imaginez-vous. Il tombe, il voit une lumière, entend la voix de Dieu. Il y a une petite conversation qui se fait entre Dieu et lui. Et là, il est aveugle. Et là, il est obligé de se faire amener dans une maison. Il voit plus clair. Il n'a plus son indépendance. C'est un handicap, là. Il est prisonnier, là. Il ne peut pas rien faire. Mais dans cette petite salle-là, avec Ananias, un autre disciple, bien ordinaire, il s'est passé des grandes choses dans cette petite salle-là. Il y a eu comme deux actions fortes dans l'histoire de Paul. Il y a eu le spectaculaire sur la route, la voix du ciel, wow! Dieu qui intervient, Dieu qui lui parle, la guérison, tu sais, tout ça. Mais dans la petite salle privée, par l'amour et l'obéissance et la fidélité d'un chrétien bien ordinaire, il s'est passé des grandes choses. Ananias ne voulait pas y aller, là, mais Dieu lui a dit, « Vas-y, c'est mon instrument, vas-y. » Il rentre là et dit, « Saul, mon frère, c'est un ennemi, mais Dieu déjà a préparé. Dieu m'a envoyé. » Puis là, il s'est passé, ça fait pas longtemps, j'ai remarqué ça juste cette semaine, ce texte-là, pourtant je l'ai lu je ne sais pas combien de fois. Quand Ananias dit à Paul, la raison qui il est et pourquoi il est là, il utilise une parole de connaissance. Là. Écoute, ce qui s'est passé entre Jésus et Paul sur la route de Damas, Ananias ne le sait pas. Mais Dieu lui a dit, il dit, Ananias, le Seigneur Jésus qui t'a apparu sur le chemin, comment tu fais pour savoir ça? Tu n'étais même pas là. Il m'a envoyé. Ça, c'est fort là, quand vous pensez à ça. Là. Ça, c'est vraiment le Saint-Esprit à l'œuvre. Ça se passe en privé. Il n'y a pas de gloire, il n'y a pas d'État. Ce n'est pas un grand évangéliste américain avec des caméras de télévision partout. Là. Ça se passe dans une chambre obscure en privé. Ça prend de la foi. Ça prend de l'obéissance, ça prend de l'humilité, qui sont des qualités pour tous les chrétiens à rechercher. Ananias arrive. Jésus m'a envoyé à toi. Pour te le prouver, c'est celui qui t'a parlé là, sur le chemin, il m'a envoyé ici. Ah, je pense que c'est assez convaincant. Je vais écouter ce que tu as à me dire. Pour que tu recouvres la vue. Et là, on a un miracle, on a une guérison. Là. Il est aveugle, il est dans les ténèbres. Il ne mange plus, il ne boit plus, là. Il est handicapé, sa vie est finie, là. Lui, il est à terre. Là. Mais le Seigneur Jésus, celui qui t'a apparu, m'a envoyé ici, il y a une guérison, et pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, le fameux mot, là, endunamu, là. Il faut c'est ce revêtement-là de puissance. Il s'est passé quelque chose dans cette salle-là, et ce qui s'est passé dans cette salle-là, c'est l'action d'un frère qui avait de l'amour, qui avait de la foi puis de l'obéissance, puis il est allé bâtir, il est allé encourager, il est allé donner des conseils à un nouveau converti, là, à une personne qui, tu sais, qui était l'ennemi, puis là, il vient de changer, il se passe des belles choses. Puis ça, moi, ça me fait penser à l'importance de tous les chrétiens. Ça, c'est quelque chose... Quand on entend parler de l'apôtre Paul, plusieurs d'entre nous vont dire, ben, « Je suis loin de ça, moi. » Je ne suis pas capable d'être comme Paul, moi. Je ne serai pas comme Paul. C'est comme lui, il est là, puis moi, je suis ici. Ça, c'est un peu comme on pense. Mais là, on trouve un Ananias qui est allé chercher Paul, puis qui l'a amené à découvrir son chemin, à le pousser vers le plan de Dieu dans sa vie. C'est fort, ça. Ça prend un Ananias. Attendez un petit peu, je suis en train de prêcher la fin de mon message, mais en tout cas, je vais le faire quand même parce que je trouve que c'est tellement beau ce que j'ai découvert. La conversion de Saul de Tarse, si vous y pensez comme il faut, c'est probablement le plus grand événement de l'histoire du christianisme, à part la Pentecôte, naturellement. Et quand Pierre est allé chez Cornelius pour amener l'Évangile pour la première fois en dehors de la communauté juive. Mais là, c'est un homme qui est sauvé, puis qui va nous avoir donné tous les écrits du Nouveau Testament, quasiment, qui va nous avoir donné les doctrines les plus pures, les plus profondes, explicatives du ministère, de la signification, le sang, Israël, toutes les choses. Il nous a tellement expliqué, tellement de choses. bâtir l'Église, les règlements de l'Église, les doctrines de l'Église, les pratiques du christianisme. Il nous met tout ça devant nous, là, cet homme-là qui était un ennemi du christianisme. Et ça a commencé dans une petite salle obscure avec un disciple qui s'appelle Ananias. C'est fort, là. C'est fort ce qui s'est passé dans tout ça. Dieu continuait d'élaborer son plan pour apporter l'Évangile au monde entier. Mais ça a commencé là. C'est spécial. Là. Des fois, on lit, on est tellement familier avec la Bible, on lit, puis on ne sait pas ce qu'on lit. On réalise pas le trésor qu'on est en train de lire. Derrière des serviteurs de Dieu bien connus se cachent des croyants moins connus. Si vous lisez la Bible, la vie de Billy Graham, et nommez-les toutes, il y a toutes des Ananias en arrière de chacun d'eux. Eux autres, ils ont percé, ils ont fait connaître l'Évangile partout. Ils ont peut-être été devant les caméras du monde entier, ils ont touché des milliers, des millions de personnes. Mais il y a quelqu'un en arrière dans leur vie comme ça. Lorsque Dieu commande, il travaille aux deux extrémités de la ligne. Il commence au début, la vie de Paul, parce qu'il sait, lui, qu'est-ce qu'il veut faire à l'autre bout de la ligne. C'est fort, Dieu, qu'est-ce qu'il fait. Moi, j'ai connu une expérience qui m'a fait un petit peu réaliser ça. Là, ça ne fait pas partie de mes notes, mais ce n'est pas grave. Ça fait une belle histoire à raconter. En 2001, j'étais en Chine, puis on avait contact avec des leaders d'un réseau d'églises clandestins loin dans la Chine. Ce groupe-là que Caroline a rencontré sur la montagne, c'était les descendants de missionnaires de 70 pays qui, en 1800, la fin était toute fin des années 1800, début des années 1900, là, 1901, tout ça. Ces missionnaires-là, de plusieurs pays européens, américains, avaient acheté un bout de terrain. C'était très dur, j'imaginais, faire la mission. L'été, beaucoup des enfants tombaient malades, des enfants pouvaient mourir, tout ça. Fait qu'ils ont acheté un petit coin de montagne, le seul coin de montagne qu'il y avait pour faire ce qu'ils appelaient des maisons d'été, pour envoyer les femmes et les enfants, pour pas qu'ils soient exposés aux maladies puis tout ça là, pendant les mois très chauds d'été. Beaucoup de microbes, il n'y a pas de médecine avancée dans ce temps-là. Mais nous, on arrive là en 2001, 100 ans plus tard. Les gens qui sont là avec nous dans cette salle-là pour se faire instruire par nous, on est une petite équipe internationale. Un de mes collègues en Chine m'a amené là. Il y avait le gouvernement chinois avait comme reconstitué ce petit village-là de missionnaires pour en faire une place historique. Puis là, tu voyais les vieilles maisons avec une plaque. Ça, c'est un missionnaire canadien qui est venu implanter un hôpital dans la ville de Xianfan dans les années 1900, début des années 1900. Mais nous, on est 100 ans plus tard, puis les gens qui sont avec nous, c'est les petits-enfants de ces premiers chrétiens qui ont été atteints par les missionnaires pionniers qui sont allés là. Tu sais, au début, on ne réalisait pas là, quand on est arrivé là. Mais le dernier jour, on a pris la communion ensemble. C'est moi qui dirigeais la réunion. Et puis là, c'est là que la révélation de l'éternité, du plan éternel de Dieu, de l'Évangile qui continue de génération en génération, du Saint-Esprit qui agit d'une génération, qui continue d'agir dans l'autre génération, et ainsi de suite. On était là, 100 ans plus tard, à reproduire. Qu'est-ce que les premiers missionnaires, 100 ans plus tôt, avaient débuté de faire? Ça nous a fait pleurer. Là, on était là, dans la présence de Dieu. Moi, je me suis senti là, tout un petit point dans le temps de Dieu, dans le calendrier de Dieu. J'en faisais partie. J'ai rentré dans l'œuvre que d'autres avaient fait auparavant. C'était un moment divin pour moi. Extraordinaire. Donc, c'est pour ça que je parle que Dieu est aux deux extrémités. Quand il travaille d'une génération, il voit déjà la génération suivante. Quand il appelle un ouvrier, il est là, il a déjà préparé quelque chose, puis il va continuer à utiliser. Il sait qu'est-ce qu'il va faire après. Comme quand Paul est arrivé, personne ne pouvait s'imaginer que le monde entier serait évangélisé par le travail de ce seul homme unique-là. qu'aujourd'hui, à Edmundston, aujourd'hui, nous sommes bénis de notre frère l'apôtre Paul. Pourtant, il était loin de nous autres, là, dans le temps et dans la géographie, mais on est tellement bénis. Et Dieu a fait ça. Dieu a des œuvres équilibrées. Dieu a contrebalancé un grand miracle public, quand Paul a rencontré Jésus sur le chemin, par une réunion tranquille dans la maison avec Ananias. Tu sais, il y a eu les deux, là. Un grand miracle public, une petite réunion tranquille. La lumière aveuglante, la voix du ciel étaient des événements dramatiques, mais la visite d'Ananias était plutôt ordinaire. La main de Dieu fait tomber Saul et utilise la main d'un homme pour apporter Saul ce qu'il avait le plus de besoin. Dieu a parlé depuis le ciel, mais il a aussi parlé par l'intermédiaire d'un disciple obéissant qui a transmis le message à Saul. C'était le message de Dieu qui lui a transmis. Dieu m'a envoyé pour te dire quelque chose. Tu as été un instrument choisi. Tu vas aller vers les païens. Tu vas aller porter mon nom pour la nation. Et puis, je vais même te donner un bonus. Je vais te montrer ce que tu devras souffrir pour moi. Donc, c'est des événements ordinaires qui faisaient partie du grand miracle. Autant des événements extraordinaires, ça prenait les deux. Donc, dans l'histoire de l'Église, puis dans la vie de l'Église, tu as les deux. Tu as des gens qui vont percer, puis qui vont être appelés. Tu as des gens qui sont des supports, des soutiens. Il y a des gens qui sont des Ananias, il y en a qui sont des Barnabas. Et puis, il y a des gens qui bâtissent. Il y a des gens qui ont des dons d'administration, des gens qui ont des dons d'enseignement. C'est tout ensemble que Dieu travaille dans un univers qu'il a penser lui-même, un univers équilibré où il y a de l'amour, où il y a de la grâce, il y a de la foi, puis le royaume de Dieu agit. Vous êtes-vous déjà fait dire, et puis avez-vous l'impression que dans notre monde, dans notre société actuellement, les gens ne veulent plus rien savoir de Dieu? Mais moi, je vous dis que ce n'est pas vrai. C'est de la foutaise. Les gens veulent savoir de Dieu. Ils veulent voir Dieu. Les gens ont besoin de Dieu autant. Écoutez, allez sur YouTube, tapez n'importe quoi. Toutes les salles qui sont pleines, les concerts de musique chrétienne qui sont pleins, les réunions dans tous les pays, les baptêmes d'eau partout. J'ai, cette semaine, dans une de mes capsules missionnaires là, du mois précédent, j'ai raconté en deux mois une petite histoire missionnaire. C'est une histoire moderne, en fait. En 1972, dans les années 60, le missionnaire canadien qui s'est rendu dans la Papouasie indonésienne et qui est allé chez les chasseurs de têtes, c'est une histoire moderne, ça se passe dans les années 1900, là, on ne parle pas des années du temps de Jésus. Il est allé là-bas, puis les gens voulaient tout le temps s'entretuer. Et puis il dit, écoutez-moi, Don Richardson, l'enfant de la paix. Vous avez vu probablement le film. C'est un film, c'est un classique de la vie missionnaire. Et puis là, à un moment donné, il est arrivé là avec ses petits-enfants. Il y a des enfants qui sont nés là-bas. Sa femme était comme infirmière, docteur, puis lui faisait l'évangélisation. Puis les autres, ils ne s'arrêtaient pas. Toutes les tribus s'entretuaient. Là. Ils disent, bien, écoutez-moi, nous, on s'en va. On ne peut pas rester dans ce contact-là. Fait que les autres voulaient les garder. Fait que là, ils ont de l'or. Racines tribales de leur culture, sort un beau geste, on va faire la paix en se présentant l'enfant de la paix. Chaque tribu offre un enfant de leur tribu à l'autre tribu pour faire l'enfant de la paix. Quand Don Richardson a vécu ce moment-là, il les a prêché l'enfant de la paix, Dieu qui a envoyé. Ce sont tous convertis, là. 50 ans plus tard, là, c'est là on arrive, là, c'est tout récent, là, ça fait pas longtemps. Monsieur Don Richardson vient de décéder, ça fait pas longtemps. Mais il est retourné avec ses trois fils sur place. L'Église, c'est partout. Ils s'en vont faire un baptême, ils pensaient de baptiser 25 personnes. Les gens rentraient dans l'eau en groupe de 25. 25, 25, 25. Il était rendu à 325 personnes à baptiser comme ça, tu sais. Ça, là, tu vois ça partout sur la terre. Tu partages l'Évangile. Il y a des gens qui ont besoin d'écouter l'Évangile. L'Évangile, elle est partout dans tous les pays. Les églises sont persécutées en Inde, tout ça, dans plusieurs pays. Les gens continuent, les gens évangélisent. Il y a encore des guérisons, il y a encore des saluts, il y a encore des baptêmes d'eau. Ça continue aujourd'hui. Le même Saint-Esprit est à l'œuvre aujourd'hui comme jamais auparavant. Et tout ça, c'est orchestré par notre Dieu et ramené dans le petit mot, là, Andunamu, fortifié dans la grâce, fortifié, rendu fort. Puis ça, c'est l'Église. L'Église d'Edmundston, vous n'êtes pas fini. Vous n'êtes pas fini. Vous continuez. Vous continuez, puis vous pouvez rebâtir sur des anciennes ruines. Vous avez été blessés. Vous avez traversé des chicanes incroyables. Vous n'avez pas fini. Le Saint-Esprit qui donne le Andunamu, cette force de vous revêtir de force, de gloire et d'amener votre Église next, c'est pas fini, là. Vous avez des enfants qui grandissent, vous avez des jeunes couples qui grandissent. Il y a une ville pleine de nouveaux arrivants là, qui arrivent, là. Vos nouveaux arrivants, allez les chercher, accueillez-les chaleureusement. Prenez-en soin parce que ce sont des missionnaires qui vous sont envoyés pour vous prêter main forte. Moi, c'est comme ça que j'accueille les nouveaux arrivants dans notre église. On en a beaucoup. Au mois d'octobre l'année passée, on a fait un baptême d'eau. 25 personnes ajoutées à l'église dans le baptême d'eau. Cette année, on s'est dit, on faisait un baptême par année. Là, on a dit, bien, écoute, 25, ça fait pas mal long baptême d'eau. Peut-être qu'on devrait faire un baptême d'eau au printemps. Mais on n'est pas sûr, là. Mais là, bien, on se parle entre nous autres, puis on dit, bien, il faudrait qu'au moins, on en ait au moins 5, là, pour que ça vaille la peine de faire un baptême. Bon, on l'annonce, on a 19 personnes qui ont été baptisées. Des témoignages de vie, là, des vies brisées, la drogue, des viols, des histoires à te faire déchirer le cœur. Les gens acceptent le Seigneur et découvrent Dieu, ils sont transformés, ils sont heureux de rencontrer Dieu. C'est pour nous aujourd'hui. Dieu est à l'œuvre encore aujourd'hui. Il faut le croire, il faut le vivre, il faut continuer, il faut être dans notre simplicité. Ah, oh, alléluia! Je ne sais pas où je suis rendu, mais en tout cas, bon, l'apôtre Paul, il a voyagé beaucoup. Hein? Il a voyagé beaucoup, l'apôtre Paul. Il a fait 4 grands voyages. Là, c'est dur à voir sur une petite carte comme ça. Mais je viens de faire une étude très détaillée sur l'apôtre Paul que j'ai partagé avec des gens. Fait que c'est frais pour moi là, de réaliser. Regardez bien la prochaine slide. La distance et les coûts de voyage de l'apôtre Paul. Bon, qu'est-ce qu'il a fait, l'apôtre Paul? Il a fait du millage, notre apôtre Paul. L'apôtre Paul a été dans 15 000 kilomètres à pied. À pied! Un peu en bateau, on dit, mais 15 000 kilomètres à pied. Ça, c'est comme si tu pars de Montréal puis tu t'en vas à Vancouver à pied. 4 fois. C'est ça qu'il a fait notre apôtre Paul sur 14 ans de sa vie. C'est sûr, des fois, il était stable, il était 6 mois de place, 3 ans à une autre place, c'est des choses comme ça. Il est revenu, il était à Antioche, il retourne. Ils ont fait toutes sortes de choses. Ses voyages ont conduit à travers Israël, la Syrie, la Turquie, la Grèce et l'Italie. Mais il y a, bon, comme je disais tantôt, 4 fois Montréal-Vancouver. Si aujourd'hui on comptait les coûts de voyage avec les billets d'avion, les hôtels, les repas, qui seraient autour de plusieurs milliers de dollars par chaque voyage qu'il faisait, pensez à ça, là. Dans ce temps-là, il a fait ça, l'apôtre Paul. Il a été en péril. Il a fait des naufrages. Il a été lapidé. Tu sais, il a vécu là, toutes sortes de choses. Il dit dans Philippiens, « J'ai appris à être content, satisfait, dans la disette, dans l'abondance. J'ai appris le secret. » Hein? Ça, c'est un beau secret à apprendre, d'être satisfait, d'être content. Puis Dieu, c'est par sa force de celui qui me fortifie, je peux tout faire. Mais dans le fond, ce qu'il veut dire dans ça, c'est pas juste faire des choses, mais je peux tout supporter. Je peux supporter l'abondance, mais je peux supporter la disette. Je peux supporter la persécution, je peux supporter... Parce que j'ai une force, le Andunamu, là, c'est ça, c'est le même mot qui vient à l'intérieur d'agir, qui le rend capable de supporter. C'est pas juste la gloire là, des voyages et puis des vacances sur la plage, là. Moi, quand j'ai choisi dans mes voyages missionnaires, c'est un principe personnel. Je n'ai pas fait de voyage pour un voyage. Ah, ça me tente d'aller sur le bord de la plage à telle place. Non, moi, c'était un voyage. Il y avait une église qui m'attendait. Il y avait un ministère là-bas. Il y avait des baptêmes d'eau. Il y avait des choses qu'on a faites. On est allé vers des tribus. On est allé ici et là. C'est sûr que, rendu sur place, les gens sont accueillants. Ils t'emmènent à la plage. Ils t'emmènent manger un barbecue à quelque part. Ils te donnent l'hospitalité. C'est comme ça que j'ai fait mes voyages. J'ai découvert les pays. Mais ce n'était pas moi. Je dis, ah, je vais aller là-bas. C'est beau. Non, c'était toujours dans l'appel de Dieu qu'on a pu faire ça. Bon, je vais vous montrer un petit peu des choses, un peu d'histoire. Ça, c'est au tout début de ma vie chrétienne. J'étais allé dans l'intérieur de la Chine. Ça, c'était en 1993-14. Les premiers contacts avec les églises clandestines loin dans les campagnes chinoises où j'ai marché la nuit dans des fossés. On m'a laissé dans des fossés pendant qu'on allait vérifier si la police n'était pas là-bas. J'ai été transporté dans des camions en hiver, tout en mitouflé pour ne pas me faire voir. Marcher à la pleine lune dans des champs, coucher sur la paille où il y avait la vache à côté, tout ça. Des rats qui m'ont passé sur la tête l'hiver. La toilette, c'était un baril de 5 gallons, puis il y avait 125 personnes qui l'utilisaient. J'ai connu des petites choses, le mal de ventre, traversé dans tout ça. Bon, mais Dieu était tellement bon. La deuxième fois, je suis allé là. La première fois, c'était le vrai désarroi. L'Église était en compétition, de la dispute, puis tout ça. Puis moi, je m'en allais là-bas dans l'ignorance. On ne m'avait pas dit, tu vas enseigner. Ils m'en venaient voir les gens. Moi, je n'avais pas de notes d'études, je ne m'étais pas préparé. Mais là, on va t'emmener, puis tu vas nous enseigner pendant 3 jours de temps. Et là, j'étais à genoux. Puis là, je priais, Seigneur, donne-moi des messages. C'était blank, là. C'était trop, là. Et puis, finalement, là, le Saint-Esprit a descendu. Le Ndunamu est venu. J'ai prêché sur le leadership qui plaît à Dieu, puis tout ça. Ça a fini dans les larmes, dans les pleurs, dans la repentance. Ils ont revoté tout le leadership. L'année d'après, je suis arrivé. Puis là, le dernier soir, j'avais parlé. Je m'en allais là-bas pour prêcher sur les dons de l'Esprit. Mais mon pasteur, qui est un missionnaire de carrière, d'expérience, m'a dit, René, fais pas ça. Prêche pas sur les dons de l'Esprit. Prêche sur la personne de l'Esprit. Présente qui il est, ce qu'il fait dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Puis quand tu vas parler des dons, c'est une des choses que le Saint-Esprit fait. Sinon, ça amène les gens à mettre des emphases extrêmes. Là, toi, t'es le super preacher qui arrive de l'étranger, t'en vas enseigner là-dessus. Eux autres, ils vont dire, ah, c'est ça qui est le plus important dans la Bible. Amène ça d'une façon balancée. Ça, c'était tellement un conseil de sagesse. Je l'ai pratiqué pendant toutes mes années en Chine. J'ai tellement vu le Seigneur agir. Cette année-là, le dernier soir, il y avait 125 leaders. Ça, c'est des groupes de 10-12 000 chrétiens qui appartiennent à un petit réseau. Fait qu'ils envoient, mettons, 125 de leurs leaders entassés dans une petite maison de ferme. Fait que dans la maison, là, tu prêches, puis ils sont assis sur le bout de tes souliers. Du matin, ça se lève à 5h30 le matin, ça prie, on commence à prêcher, on se lave tout avec les mêmes serviettes. Puis là, on arrête pour déjeuner vers 10h, 11h, on prêche jusqu'au soir. Là, on arrête pour un souper, 2 repas par jour, puis on continue jusqu'à 9h. C'est sans arrêt, là. Ces leaders-là, ils écrivent tout ce que tu vas dire. Il y a un tableau. Puis il y a deux chambres de chaque côté. Les gens ne te voient même pas, ils sont là, bien, ils t'écoutent, puis ils écrivent tout, là. C'est glorieux. Puis il y en a qui sont dehors, parce que là, c'est pas assez grand pour aller dans la maison. Les autres sont dehors. Et puis on prêche. Puis le dernier soir, j'ai dit, écoutez, j'aurais à cœur de prier pour vous que le Saint-Esprit vous donne son onction. Je ne vous toucherai pas, je ne vous ferai rien, on va juste s'ouvrir au Saint-Esprit pour le baptême du Saint-Esprit. Là, ça a descendu comme un feu. 115 personnes ont été baptisées du Saint-Esprit, sont mis à parler en d'autres langues, sans que je n'ai rien fait comme ça. Ça a été vraiment extraordinaire. L'année d'après, quand je suis revenu, il y avait plus que 10 000 personnes qui avaient connu cette expérience-là parce que tous ces pasteurs-là sont partis aller l'amener. Bon, ça, c'est juste une des histoires. Bon, ici, c'est plus tard. Ça, vous voyez ici 2015, mais ça, j'ai commencé en 2008 à Hong Kong. Dans notre église, on avait beaucoup de femmes de Philippines qui venaient travailler comme des aides domestiques. Et puis nous, on mettait beaucoup l'emphase sur l'enseignement, la formation au ministère, les cours de fondation. Je donnais des cours de guitare pour que quand ils vont retourner dans leur pays, ils vont pouvoir avoir la capacité de louer, chanter et tout ça. Puis beaucoup de nos jeunes dames, quand ils retournaient aux Philippines, ont commencé d'évangéliser les enfants, leurs familles. Puis on a planté 15 églises dans l'espace de pas beaucoup d'années. Pas nous, mais nos membres qui allaient. Puis nous, on les supportait, on les soutenait, on allait les voir, pour les enseigner, on allait faire des baptêmes d'eau, les rencontres spéciales, les anniversaires d'église, etc. Puis en 2008, en 2006, ça a commencé à travailler dans mon cœur de faire des missions d'évangélisation aux Philippines, mais médicales. Mais moi, je n'ai aucune formation médicale. Dieu m'a souvent utilisé à faire des choses que j'ai jamais fait avant. C'est que j'avais jamais que j'ai pas d'expérience ni la capacité de faire. Mais je sais pas pourquoi, mais Dieu, mettons, fait naître une idée, quelqu'un d'autre nourrit cette idée-là, là tout d'un coup, les ressources arrivent. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Une idée, un projet, un plan, mais c'est pas par où commencer. Là, quelqu'un te dit un petit peu, te met sur la piste. Quelqu'un d'autre arrive avec des ressources humaines. Là, aux Philippines, on avait des fois des équipes. Regardez l'image d'en bas. Ça, c'est une de nos équipes. Ça, on les nourrit, on les transporte. Ce sont tous des volontaires. On a des docteurs, des dentistes, on a des verres de lecture. Puis on faisait des distributions d'épicerie dans des villages au complet. Là, on pouvait toucher 900, 1000 familles, 1200 familles de personnes qui venaient avec pas de budget, pas d'expérience, avec rien. Mais comment que ça se fait, ça? C'est un miracle, ça prend juste des miracles de Dieu. Mais là, j'ai commencé en 2008. On est allé vers une tribu, on avait une de nos sœurs que son mari était ami avec une tribu qui vivent. Dans la forêt, ils n'ont pas de certificat de baptême, ils n'ont aucun statut social, ils vivent dans la forêt. Le gouvernement les a envoyés là, les appelle les Haïtas, c'est une tribu vraiment. Puis on est allé chez eux avec notre petite équipe missionnaire, c'était quelque chose parce qu'il fallait qu'on transporte tout notre équipement en haut de la montagne et puis tout ça. Mais là, moi je suis devenu très grand ami avec le chef et son épouse. Et puis une journée, je m'assois avec lui, j'ai dit, bien, écoute, chef Amado, vous avez déjà entendu parler de l'Évangile? Oui. Mais pourquoi maintenant vous avez comme accepté avec nous de vous tourner vers Dieu? Mais il dit, il y a des gens qui venaient, ils nous disaient que Dieu nous aimait, mais on ne voyait pas l'amour. Mais il dit, quand vous êtes venus, on a vu l'amour. Parce qu'on s'est occupé d'eux. Dans les années qui ont suivi, ils ont traversé. Les autres, ils vivent dans une zone où toutes les tempêtes tropicales possibles passent, puis détruisent leur petite maison en paille une fois à l'autre. Fait que nous, de Hong Kong, dans les années qui ont suivi, on a envoyé de l'argent, on les a envoyé des semences, par l'entremise de nos églises qui étaient sur place. On a rebâti des maisons en bois solide avec un petit toit de tôle, plancher de ciment à un moment donné, parce qu'il y avait tout était parti. Il n'y avait plus rien, là. C'était une dévastation. Je suis allé là-bas voir ça. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on a fait en commençant en 2008, puis on a continué pendant les années à faire des missions médicales. J'ai beaucoup eu d'opportunités d'aller dans les prisons provinciales, des prisons avec des milliers de personnes. Aux Philippines. Comme eux autres, vous voyez sur leur chandail, border. Parce qu'eux, on ne pouvait pas les appeler des prisonniers. Parce qu'ils n'avaient pas encore passé devant le juge. Ils étaient en attente. Ils étaient dans une prison en attente de passer devant le juge. Ils étaient des pensionnaires, des borders, c'est ça que ça veut dire. Ils peuvent passer 4 ans, 5 ans à attendre d'être jugés. On a fait, à un moment donné, une mission médicale dans la prison. On a reçu des certificats, en tout cas, des histoires, je pourrais vous en raconter toute la journée. Mais ici, c'était au Bangladesh. Plus tard, j'ai rencontré un groupe à Hong Kong, un ami, il est indien de naissance, mais il est resté dans beaucoup de pays. Et puis, il y avait un ministère Christian Solidarity au début, ils ont changé de nom maintenant. Et puis, c'est d'aller dans les pays où les chrétiens sont fortement persécutés. Pour leur laver les pieds, si tu veux, les relever. Là, le couple là, de pastoral, ils sont fait briser leur vie, ils sont fait menacer. Il y a des foules là, en haine, en violence qui sont venues pour les chasser. Là, ils ont vraiment été traumatisés. Fait qu'on les réunit, à peu près 30-35 couples. Et puis, on fait une semaine avec eux autres, juste les aimer, les nourrir. Tu sais, comme souvent, ils s'attendent, ils vont aller dans une conférence pour se faire former, pour faire quelque chose. Un cours d'évangélisation, un cours comment planter des églises. Non, on dit non. Ici, vous êtes ici pour vous reposer. Vous êtes ici pour que Dieu vous rafraîchisse. On ne vous enseignera pas quoi faire. Et puis, en tout cas, c'est tellement extraordinaire qu'est-ce que Dieu nous a permis de vivre. Ce soir-là, dans cette réunion-là, ça, c'est la deuxième fois que j'étais allé au Bangladesh. J'ai prié pour une dame qui était en chaise roulante et puis qui n'avait pas marché depuis 6 mois. Puis, je lui ai demandé de se lever. Après, j'ai prié pour elle, puis elle s'est levée, puis elle a marché. Ça, c'était vraiment spécial. Bon. Ici, ensuite, on est remonté à Delhi. Ça, c'est l'équipe avec laquelle on a fait du ministère. On est allé rencontrer les 35 couples pastorales pour un camp caché dans les montagnes entre le Népal et le Nord, parce que le président et le parti dominant là-bas, c'est un parti extrémiste nationaliste en Inde, qui veulent convertir et forcer toutes les institutions et tous les gens d'être un pays hindous seulement. C'est des grands persécuteurs. Ils font des campagnes de haine à la télévision, c'est permis, tout ça. Donc, les chrétiens souffrent beaucoup. Il y a des gens qui sont venus de plusieurs tribus, de plusieurs provinces, jusqu'à 800 kilomètres de là. Des gens là, vraiment tribales qu'on avait. Et puis, c'était un camp familial. Si on parlait sur la vie de couple. Puis, beaucoup... Malgré qu'ils sont chrétiens, ils connaissent bien les doctrines chrétiennes, mais quand ça arrive à la vie de couple, mettre en pratique, c'est comme s'ils ont conservé leurs anciennes cultures, leur façon de voir le rôle de la femme, voir le rôle de l'homme. Comme dans la province de Punjab, chez les Sikhs, la femme, c'est les sandales de l'homme. Donc, c'est pas très haut en estime. Nous, on leur parle, puis moi, c'était souvent mon enseignement principal. Dans tout ça, il y avait des enseignements différents qu'on faisait, mais moi, c'était vraiment sur les couples. Et là, c'est une découverte. Ça vient les bouleverser parce que ça défait là, leur culture puis leurs attitudes. Puis à la fin, on finit par un lavement des pieds. J'ai fait au Bangladesh, on avait fait un lavement de pieds de 400-500 personnes à la fois. Là, c'est quelque chose. Mais là, c'est des petits groupes. Puis là, on demande aux hommes de laver les pieds de leur femme. Ça, là, c'est comme leur demander une impossibilité. De quoi d'humiliant, de quoi là, qu'ils ne peuvent pas faire. Mais le Saint-Esprit, on a déjà fait des enseignements, là, c'est tellement fort là, quand le Saint-Esprit arrive, c'est qu'ils réussissent à le faire. Puis ça fait une transformation de cœur, une transformation, là. Après ça, ils se promènent la main dans la main. Tu arrives là au début, là, c'est tout comme des faces de ciment. À la fin, là, c'est quand est-ce qu'on refait ça encore, puis la main dans la main, puis là, ils ont recommencé à vivre. Il y en a qui disent, on s'est mariés ici. C'est ici qu'on a découvert. Au Bangladesh, c'est la même chose. Les gens donnaient des témoignages. C'est la première fois que je comprends le mariage. C'est la première fois que j'aime ma femme, que je sais c'est quoi. Il y en a que c'est la première fois qu'ils touchent aux mains de leur femme. Il y en a que c'est la première fois qu'ils se regardent les yeux. Comme si, je veux dire, c'est des grosses montagnes à traverser. En tout cas, ça a été vraiment un privilège de pouvoir participer dans des choses comme ça. Ça, vous allez voir juste un petit aperçu. On était dans les montagnes, pas loin du Népal. Vraiment en cachette, quelque part. Ça, c'est un soir. Je vais vous le faire jouer parce qu'il y a un beau message dans ce chant-là. Je veux le faire chanter à l'église. Ça chante un chant qui se répète constamment. Puis là, tu peux nommer des endroits géographiques de tous les coins du monde. Nous pouvons entendre le son du nom de Jésus. C'est vraiment touchant. Moi, ça me passionne, ces choses-là. Et puis, « Dunia ke kone kodeme gunjara yeshu kanam, kaisa piraya yeshu kanam, dunia me alléluia. » Puis là, quand ils recommencent, bien là, ils peuvent nommer une province ou le nom d'une ville. De là, on peut entendre le son du nom de Jésus.
कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया के हाले
Punjab, qui est un province. C'est Punjab, on peut entendre le son de Jésus qui vient. Là, il va nommer une autre province de l'Inde. De là-bas, on peut entendre le son du nom de Jésus.
Punjab, Kaisa pyara Yeshu ka naam.
Amen. Ça, c'est notre session quand on a fait le lavement des pieds, où les hommes lavent les pieds des femmes en premier, puis ensuite les femmes vont laver les pieds des hommes. Après ça, on continue avec les réunions, les témoignages, et puis tout ça. Puis c'est très, très puissant, très puissant. Ça, c'est un... Après, tantôt dans la vidéo, j'avais vu l'année passée, on est allé aux Philippines, au nord. On a commencé en Inde, puis on est allé à Singapour, Cambodge, Singapour, Hong Kong et tout ça. Puis là, c'était aux Philippines, on a fini pas mal le ministère qu'on avait à faire. Alors, voici.
We are riding a tricycle on the way to the retreat this morning. So, as you can see, we are on our way. We are preparing for a good, good day with a full day retreat and water baptism today. And tomorrow we'll be back with the Etas in the mountain for Sunday morning service. And then the afternoon in another location for another church service. Oh, God bless.
Amen. Alors je termine. En lisant un verset. Cependant, Saul se fortifiait intérieurement de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. C'est encore le même mot, se fortifiait, parce que c'est ça la vie d'un chrétien. On se fortifie, on grandit, on s'édifie, on expérimente la fidélité de Dieu. On obéit, on veut servir Dieu. Puis au fur et à mesure, dans les expériences positives et négatives, il y a ce phénomène-là de se fortifier, d'être fortifié par l'action du Saint-Esprit. Les choses dont on pense qu'on n'est pas capable de faire, on est capable de les faire. Et on est rendu capable de les faire. Dieu pourvoit et Dieu agit. Alors, je veux finir par la prière, prier pour votre Église, prier pour vous. Et je souhaite que de votre Église, vous puissiez avoir un bon pasteur, un bon berger qui va bien prendre soin de votre Église avec foi, vous nourrir dans la foi, vous édifier, vous faire grandir. et puis qu'il y ait des ministères qui sortent dans la future génération de votre Église, qu'il y ait des missionnaires, des évangélistes, parce que Dieu est aux deux extrémités. Il est au début, puis il sait qu'est-ce qu'il veut faire, puis il cherche des gens pour le faire. Tout ce que ça prend, c'est une personne simple, un Ananias, un Saul de Tarse, n'importe qui dit « Seigneur, me voici ». Et puis qui obéit, puis qui suit le Seigneur, puis la gloire de Dieu va s'en suivre. Parce que c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui rend possible, c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui inspire, c'est Dieu qui bâtit, c'est Dieu qui pourvoit. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'être là, puis d'être un récipient, recevoir pour pouvoir transmettre. Alors, Seigneur, mon Dieu, vous pouvez vous lever si vous voulez. Merci, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant, de nous édifier ce matin. Tu es bon, Seigneur. Seigneur, je prie pour l'Église ici à Edmundston. C'est ton Église. Ce sont tes enfants. Ce sont des gens que tu as connus avant la fondation de leur monde. Tu les as arrêtés. Tu les as choisis. Tu les as appelés et tu les as établis, Seigneur. Ils sont encore aujourd'hui avec toi, Seigneur. Tu as commencé ton œuvre en eux. Toi qui es fidèle, tu vas la compléter en eux. Seigneur, cette Église est un pilier aussi, Seigneur. Malgré toutes les tempêtes qu'ils ont traversées, Seigneur, tu es en train d'agir. Tu es en train de relever, Seigneur. Tu es en train de souffler ton vent, Seigneur, dans cette dernière génération avant ton retour, Seigneur, avec tous les nouveaux arrivants qui arrivent, Seigneur, partout au Canada, Seigneur. Seigneur, que ce soit une terre qui se fasse évangéliser maintenant. Seigneur, j'ai travaillé avec des merveilleux étudiants africains en Chine. Seigneur, quels beaux missionnaires ils ont été, comment ils ont touché des milliers de personnes en Chine et au Québec. Ils arrivent au Nouveau-Brunswick, partout dans le pays, Seigneur, avec leur foi, avec leur enthousiasme, Seigneur. Merci, Seigneur, de les amener vers nous, Seigneur, qu'il y ait des chrétiens de toutes les nations qui viennent ici au Canada. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour influencer notre pays qui s'éloigne de la vérité, qui s'éloigne de valeurs judéo-chrétiennes. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu puisses établir un peuple, Seigneur, qui se multiplie, qui évangélise, Seigneur, que tu ouvres des portes qu'on ne savait même pas que c'était possible, que tu nous donnes, Seigneur, de la créativité, de l'imagination, des idées, comment faire des choses qu'on n'a jamais fait auparavant, essayer, qu'on puisse aller de l'avant, Seigneur, que tu puisses agir dans notre génération, Seigneur. Dieu, on n'est pas arrêté dans nos vieilles façons, Seigneur, mais on est prêt à se laisser transformer, Seigneur, et à se laisser agir par toi, Seigneur. Merci, Dieu, d'en appeler dans cette Église aussi aujourd'hui. Et je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Amen.